Racontez-vous.
Racontez-vous. Une émission de Franck Dumouya et Anne-Claire Rebibeau.
Racontez-vous.
Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Pour cette nouvelle émission de Racontez-vous, c'est cette fois-ci moi-même, Anne-Claire Rebibeau, qui vous propose un reportage sous la forme d'un portrait. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance de Serge Le Borgne. Je l'ai rencontré avec d'autres personnes lors d'un concert en plein air dans les douves du château de Nantes. Voilà, nous nous sommes mis à échanger autour d'un verre. Et j'ai été touchée par sa personnalité et son parcours de vie. Et donc j'ai eu envie de réaliser une émission radio avec lui, ce qu'il a accepté aussitôt. Serge Le Borgne a 50 ans, il est électricien à l'aéroport de Nantes. Il vit dans une caravane, par choix, mais aussi parce que ce sont les aléas de la vie qui l'y ont poussé. Il est passionné de musique, il aime la jeunesse et est épris de liberté et de temps. Et s'il y avait un lien entre tout cela ?
Je m'appelle Serge Le Borgne. Je suis né en banlieue parisienne, dans le 95. Sans entrer dans l'arme à l'œil et tout, c'est vrai que donc j'ai débarqué à un moment aussi, en 70. Et de 64 à 70, on était dans ce qu'on appelle la cité d'urgence. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé peu de choses. Mais en fin de compte, c'est là où on mettait les pauvres. C'est une petite baraque avec un jardin. Et c'était une sorte de ghetto en fin de compte. Donc pendant 6 ans j'étais là-dedans et après le Graal, j'ai fini dans une cité au milieu de nulle part, à Aisanville. Donc de 70 à 83. Donc c'était une cité posée au milieu de nulle part, il y avait juste la nationale. Hein. Et s'il y avait une briqueterie, c'était mon terrain de jeu, à pousser les wagonnets. Hein. Et puis après Paris. Je n'ai pas rencontré les bonnes personnes déjà à l'époque. J'étais un peu trop jeune pour côtoyer ceux qui faisaient du rock. Je traînais plutôt avec ceux qui aimaient le foot. Donc j'ai fait du foot. Ouais, c'est... Oh, une période d'insouciance, ouais. Bon, comme tous les gosses, quoi. Même s'il n'y avait rien, c'était une belle période, quand même. Mais il n'y avait vraiment que dalle, quoi. Pas de cinéma, pas de médiathèque, pas de commerce. C'est à peu près à 20 bandes de Paris, tu n'y allais jamais. Hein, c'était une vie d'enfant ensemble, en fin de compte. On faisait fi de savoir si t'étais black, polonais, portugais. Mais les familles entre elles ne se mélangeaient pas forcément, hein, déjà. Non, on traînait dans les caves, on traînait dans la briqueterie. On joue au foot toute la journée. Ça paraît, ouais, pauvre hein, comme vie, mais c'était la démerde en fin de compte. Je me souviens, pour essayer de gagner un peu de fric, dans les caves, on allait récupérer les bouteilles en verre pour la consigne, par exemple. Là, tu fais plus ça aujourd'hui quand même. Donc voilà, ça c'était jusqu'à 18 ans. Et après Paris, là, alors là vraiment la liberté, quoi. J'ai rencontré une nana plus vieille que moi et ça a été, que je vois toujours d'ailleurs, ça a été ma prof en fin de compte en tout. Elle et sa famille. Ouais. J'ai mangé mon pain blanc à cette époque, je pensais que c'était ça la vie. Je croyais que ça allait toujours être comme ça, et non. Et ouais, 7 ans, incroyable. Et pourtant, je bossais. Hein. J'étais électricien déjà à l'époque. Et voilà, des concerts, ces gens-là m'ont tout appris.
Ils t'ont ouvert beaucoup de portes sur la culture. C'est ce que tu es en train de dire.
Ouais, sur le même la vie en règle générale. Hein, Mais oui, culturellement, bien sûr. Je me souviens du frère était très jazz, donc c'était grâce à lui. La sœur était prof. Hein. Première fois où j'ai entendu Jean-Sébastien Bach, c'est chez elle. Je connaissais pas Bach, j'avais 18 ans donc. Ah, je me rappelle de ça. Elle dit, tu connais Bach? Mais j'ai dit non. Elle m'a mis un disque, ouais, ça a commencé là. Ça fait vraiment un an que je suis dans cette caravane que je vais te faire visiter. Donc voilà, tout est un peu destroy parce que quand j'ai mis la caravane, comme tu vois, c'est étroit. J'ai acheté ça à l'arrache sur le Bon Coin et du coup j'ai dû péter le portail pour qu'elle rentre quoi, parce que le portail ne s'ouvre pas. Il s'ouvre que sur ce montant là quoi. Donc ça fait un peu Candromano.
J'ai vu aussi une chose qui est écrite sur une petite palissade. Accès réservé exclusivement au personnel habilité. Qu'est-ce que c'est ce personnel habilité?
Moi je suis électricien et c'est un lot que j'avais trouvé en vide-grenier. C'est ce qu'on voit plus dans les locaux techniques par rapport à l'élec, je sens. C'est... Et j'ai trouvé ça marrant de laisser ça. Est-ce que tu es habilité à entrer là?
Et donc toi aussi, tu es habilité à rentrer là?
C'est un peu chez moi, quoi. C'est... ouais. C'est chez moi, d'ailleurs. Voilà cette caravane Trigano de 1975.
C'est douillé chez toi.
J'essaie de ranger. Je suis... J'aime bien un peu, j'aime bien que ça... Bon, là, c'est un peu le bordel, quand même. C'est... Là, je manque de place, cruellement de place. Mais c'est une partie de moi quand même.
Je vois que tu as une belle platine sur ta table avec une chaîne IFI.
Ouais, les vinyles, ouais, j'ai jamais en fin de compte arrêté ce support. J'ai plein de CD, mais j'ai toujours plein de vinyles. Et, je vais pas dire que j'ai été un précurseur, mais quand même, j'ai jamais cédé. J'adore ce support. La pochette, tout le cérémonial qu'il y a derrière, quoi. C'est... Un vinyle, tu l'écoutes vraiment. C'est pas de la musique au kilomètre. C'est Donc voilà, j'en ai plein. Ça traîne partout. C'est tout style, tout.
Qu'est-ce que tu écoutes surtout?
Alors c'est par période. En ce moment, c'est du français et du psychédélisme. Et un français pour moi top, c'est Daniel Darc.
Tu nous fais écouter?
Ah, on peut écouter quelque chose.
Ouais.
Ouais.
Avec
ouais,
plaisir. Ouais.
Ouais. D'accord. Ah ouais, je suis le printemps, ouais. Je suis né en mai, je suis le printemps, ça le fait ça.
Okay.
Ouais, c'est une bonne idée.
Allons-y.
C'est assez rare pour Darc parce qu'elle est gaie cette chanson. C'est quand même assez sombre Darc. Donc on a dit que c'était la deuxième de la face 1.
J'ai foutu le camp, mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, et pourtant, j'ai déchiré à grands coups de dents le fil d'acier. J'suis né en mer, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver tout blanc. La 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 la.
C'est un fantôme qui a fermé la porte.
Et ouais. Regarde.
J'ai foutu le camp.
Il s'en va. Alors explique-nous pourquoi tu aimes cette chanson.
Elle me fait voyager. Et puis dans l'univers de Dark, elle est pas, c'est pas commun. Quelque chose de guiré un peu de... Et musicalement, c'est vraiment... J'adore. Petite touche de clavier derrière là, toujours, c'est...
Et toi, tu es né quand ?
Je suis né en 64.
Quelle saison ?
Je suis pas né en mai, moi, je suis né en novembre. Le 1er novembre. La fête des morts. Et donc, j'ai 50 balles. Hein. Donc, c'est les scorpions qui sont nés en novembre. Et 64, c'est l'année des dragons en plus. Ouais, c'est trop dur. Scorpion dragon, c'est trop dur. Ah. Mitterrand était scorpion dragon.
Tu ressens le côté dragon en toi ?
Ouais, je pense. Je me souviens de sur un site de rencontre, il y avait une fille qui disait : je veux bien tous les signes, mais pas un scorpion. Ah, c'est mal barré comme ça. Non, c'est vrai.
Tu n'as pas pu la rencontrer du coup.
Ben non, je sais pas qui c'était, mais c'est vrai que j'ai. T'es presque marqué au fer rouge, quoi, scorpion.
Toi, tu m'as l'air d'être un dragon doux.
Ah. Ouais, je suis quand même plutôt zen, on me le reproche plein de fois d'ailleurs. Un jour, je me souviens, on m'a dit avec cette nonchalance, on dirait que tu te moques de tout. C'est pas tout à fait faux. C'est pas complètement vrai non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà reproché ça. Une nonchalance dans la démarche. Wow. Et quand tu bosses dans le milieu de l'industrie, c'est pas un atout d'être nonchalant.
Qui a besoin de rigueur ?
Ben, on a envie que ça aille vite, tu vois. Comme ça, comme tu fais plein de conneries, ben, tu refais, tu vas vachement vite, on a l'impression que t'es efficace. Alors quand tu vas cool, tu le fais qu'une fois, mais tu le fais bien. Mais c'est vrai que t'as été cool. Je vois bien que ça plaît pas, quoi. On continue la visite de cette parcelle. Quitte la caravane. Ça, c'est mon frigo.
Ce sont des denrées dans des sacs en plastique.
À l'ombre.
À l'ombre, accrochés à un arbre.
C'est mon frigo portable.
Donc tu n'as pas du tout d'eau dans la caravane.
Non, le terrain n'est pas viabilisé, donc les legs, je l'ai par un autre moyen, mais il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'élec, donc j'ai internet au taf, je me lave au taf. Je suis content d'y aller pour ça, je te jure que ça.
Et on va aller vers ton petit lieu convivial.
Mon salon d'été sous le cerisier, c'est...
Tu aimes échanger avec les gens ?
Ouais, j'aime les gens. Même encore aujourd'hui, hein, même si c'est pas toujours simple. Non, j'aime les gens. Moi, je grandis que comme ça, en fin de compte. C'est au contact. Sans personne, je m'appauvris et je dessèche. Et alors, je me suis rendu compte que c'est pas une histoire d'âge, les gens. La sensibilité, c'est pas l'âge, c'est... Tu peux te sentir bien avec une... Je côtoie aussi bien des filles que des mecs. Hein. C'est des gens de 25 ans, quoi.
Dans quel cadre tu les rencontres ? Dans quel type d'ambiance ?
Sur Nantes, on a encore la chance d'avoir quelques lieux alternatifs. C'est quand même plutôt eux qui les occupent, ces lieux. Et par exemple, rien qu'hier soir, je vais y arriver... Un jeune type que j'ai connu à Beach qui vient me voir et qui m'offre un verre de vin, c'est sympa, c'est touchant, quoi. Des fois, je me dis, ils me voient un peu comme leur père, quoi. C'est, ou du moins un monsieur âgé, plus âgé qu'eux, et un certain respect, je le ressens. Ils me ménagent un peu, c'est rigolo, je le ressens comme ça. Ils m'offrent un verre de vin, il n'est pas obligé. Donc c'est touchant, et il y a un échange. Donc c'est pas une histoire d'âge. On a pratiquement 30 ans d'écart et ça me fait du bien, ça, moi aussi. Ils me nourrissent, ces jeunes, et j'ai l'impression que je leur apporte autre chose, donc un bel échange. Ouais,
Est-ce que tu sais ce que tu leur apportes ?
Moi, j'ai l'impression qu'ils aiment bien mon calme. Et ils se disent, mais c'est qui ce mec qu'on voit souvent, quoi ? Souvent seul, en plus, souvent... qui les écoute, qui les regarde, et j'ai pas grand chose à vendre, moi. Donc je raconte ma petite vie, quoi. Ouais, je pense que je les intrigue un peu. Des fois, qu'est-ce que je me fais chier avec des gens de 50 ans, et je les emmerde aussi, hein, c'est réciproque, hein, on s'ennuie, donc ça dure pas longtemps. J'aimerais bien côtoyer aussi des personnes de mon âge, mais je sais pas où elles sont. Je les vois peu dans la ville. Alors soit c'est des gens qui restent chez eux, soit ils sont coincés sur Mythique, je sais pas. Et les 35 et jusqu'à, je sais pas moi, 77, je sais pas tellement où les trouver.
Et à ton travail ?
Non, c'est un boulot de fonctionnaire, il n'y a pas de turnover là-bas. Non, c'était comme un poireau là-bas. Une fois que t'es ancré dans la terre, tu bouges pas. Non, il n'y a pas d'embauche.
Redis, tu es électricien, mais où, pardon ?
Je suis électricien sur l'aéroport de Nantes Atlantique. Donc, je suis ouvrier d'État, exactement. Mon statut, c'est ça. On n'a presque plus rien à faire, puisque tout a été donné à Vinci. Mais comme on est fonctionnaire, on reste, quoi. Et il n'y a aucun turnover. Il y a vraiment... quand parfois il y a un intérimaire, c'est que vraiment, vraiment, le service est en déliquescence. Il faut vraiment quelqu'un, quoi. Et de toute façon, la personne aura tellement de boulot que impossible de boire un café avec. Non, c'est pas possible. Donc non, c'est pas au boulot, à part quelques potes quand même, mais c'est pas au boulot que je les rencontre.
Je voulais revenir par rapport à ces jeunes. Est-ce que finalement, ils t'apporteraient pas une forme de liberté ? Que tu as aussi, c'est peut-être ça qui vous rapproche.
Ouais, c'est ça, bien sûr. Ils sont libres, donc par exemple, un tout petit truc, là. J'aime bien le collage, hein. J'aime bien le street art en règle générale, donc j'ai fait un peu de collage dans Nantes. Qui est libre pour coller ? C'est pas les gens de 50 balais. Alors soit ils ont peur, des sanctions, je sais pas lesquelles d'ailleurs quand tu colles, soit ils sont pas libres, soit ils ont des enfants, soit ils sont fatigués le soir, et... Moi, aujourd'hui, je suis vraiment libre. Donc, c'est que des gens de 25-35. Hein. C'est eux qui sont libres. Effectivement, donc le collage qu'on a fait sur des faux pieds de biclou à Nantes, dans les quartiers où il n'y a pas de biclou, c'était des jeunes, deux jeunes. Ouais.
Tu pourrais me dire, c'est quoi la liberté pour toi ?
Ouais, je vais répondre un truc pas forcément... Essayer de zapper le max de contraintes, quoi. La liberté, en fin de compte, c'est avoir du temps. Pour moi, être libre, le seul luxe que j'ai, c'est du temps. Je suis radin que d'un truc, c'est de temps. J'aime pas qu'on prenne mon temps, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec l'entreprise. Parce que être bloqué 10 heures par jour, c'est pas possible, quand t'as du temps, t'es presque libre.
Et comment tu l'utilises, ce temps ?
Je flâne, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à observer, j'aime bien ça. Au café, par exemple, regarder les gens. Puis après, non, j'ai plein d'activités, quand même. Donc déjà, écouter de la musique, ça prend vachement de temps, quand tu l'écoutes vraiment, hein, bouquiner, beaucoup de cinéma aussi. Et puis les rencontres, ça prend du temps. Justement, donc il faut être disponible, il faut être libre, il faut du temps, il faut... Ça s'entretient, les rencontres.
Est-ce que la liberté, tu la recherches aussi en vivant ici dans une caravane? Qu'est-ce qui t'a amené à vivre dans une caravane?
Non, tu peux être libre dans un palais, hein. Tu peux être aussi prisonnier dans un palais ou prisonnier dans une caravane. Non, c'est les conditions matérielles avant tout, au début, et puis maintenant c'est un choix. Je me dis qu'on peut vivre différemment. T'es pas obligé, j'aimerais bien parfois être dans un palais avec du marbre et tout, hein. mais j'aime les extrêmes. Être dans une caravane, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un choix. Je l'assume. Il y a aussi un petit côté provoque derrière ça. Pourquoi je suis là, en fin de compte? Un peu en galère, quand même. C'est une séparation, il y a 4 ans. Et j'ai trouvé ça hyper injuste, comment ça s'est soldé. J'ai l'impression d'avoir été spolié, quelque part. Ouais, spolier en plus avec l'aval de, entre guillemets, l'État, quoi, ou ses représentants, que ce soit les avocats, notaires. Ça n'a choqué personne. Donc en gros, en faisant simple, c'est vrai que la maman a pratiquement tout gardé. Et j'ai pas grand-chose, quoi. Donc ce petit terrain. Et aujourd'hui, je ne fais plus semblant, j'ai plus envie de me bagarrer avec ça. Ça m'a épuisé, usé. J'ai loué une maison pas très loin d'ici, ça m'a ruiné. C'était pas la liberté, justement, ça. C'était une contrainte d'enfer.
Le fait d'avoir un loyer à payer, avoir des charges, etc., pour toi, c'est une privation de liberté?
Oui, complètement. C'est-à-dire, n'ayant plus ça à payer, mine de rien, je bosse moins. Et donc, j'ai du temps. Voilà. C'est une sorte d'arithmétique. Non, je pouvais pas en plus. Tu bosses toute la journée, t'as pas un rond à la fin du mois, quoi. C'est pas humain. Donc oui, c'est ça. Donc moins de frais fixes, t'as besoin de moins d'argent, donc tu bosses moins. Et du coup, t'as du temps. Du temps aussi pour rien faire, hein. C'est super parfois de rien faire. Simplement être là, sous le cerisier, regarder les feuilles, écouter. C'est agréable le vent, non? J'essaie d'être présent. Sans aucune prétention. J'ai pas lu 100 bouquins là-dessus, mais demain j'en sais rien, on sait pas en fin de compte. On anticipe toujours et c'est ce qui fait peur. Donc ouais, là par exemple, je ressens du vent sur moi, j'ai pas de cheveux, mais je ressens presque mes cheveux bouger, là. Non mais c'est délicieux, quoi, ce vent d'ouest à Nantes, là,
c'est chez les fâcheux qui préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard
sur le pont des arts. Tu croises le vent, vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon si par hasard. Sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau.
Depuis que j'ai 18 ans, on me dit « tu seras électricien ». J'ai un peu écouté, je me suis un peu laissé faire là-dessus, ça. J'aurais dû écouter d'autres voix.
Et... Comme quoi ?
Ouais, j'avais rencontré des potes un peu rock'n'roll quand même sur Paris, qui galéraient, mais j'aurais dû suivre la voie un peu plus galère que confortable. Ouais, je pense que le côté... Rock'n'roll, ça m'aurait convenu un petit peu mieux que le milieu de l'industrie où je me reconnais absolument pas là-dedans. Quoi. C'est...
Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par le côté rock'n'roll, hein? À quoi tu l'associes ? La musique ou autre chose ?
Si, au départ, c'était que musique. Mais c'est lié à la liberté aussi. C'est ce que j'appelle le côté rock'n'roll, c'est ça. C'est le côté libre. Après, ça s'est élargi. C'est... sans prétention, moi j'aime l'art, hein. Mais l'art on le voit ici dans le jardin, il n'y a pas besoin d'aller forcément dans une galerie, hein, c'est... Donc voilà, j'ai quelque part à 50 balais, je me dis, même si j'ai exploité ce côté là que j'aime bien, je ne sais pas combien de concerts j'ai pu voir et entendre, combien d'expos j'ai pu mais je me suis jamais lancé là-dedans. Je reconnais que j'ai eu un peu peur en fin de compte, ou j'ai pas rencontré les bonnes personnes qui m'ont donné l'impulsion de ça, quoi.
Tu aurais aimé être musicien ?
Autour de la musique, ouais, franchement. Ouais, je me souviens dans les années 80, là, un des premiers tafs que j'avais fait, c'était dans l'industrie. Et j'avais envoyé un CV à toutes les salles de spectacle de Paris pour être éclairagiste, et bah, il n'y a pas eu de réponse, quoi. Après, voilà, il y a eu assez rapidement les enfants, tu te dis, putain, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais pas...
Quel âge ont tes enfants ?
Alors, j'ai 3 enfants, l'aîné Vincent a 21 ans, après il y a Mathilde, 19, et le petit dernier qui va avoir 13 ans bientôt, avec la même maman, c'est la même fratrie. J'étais un papa responsable, hein. Rock'n'roll, mais responsable, quand même. C'est vrai. D'où la difficulté, après, suite à la séparation, de ne pas avoir ses enfants. C'est l'enfer, carrément, quoi. Et justement, je trouve que... Ça n'a pas été top, franchement. Je trouve qu'en... Ouais, les papas, ils galèrent bien, quand même. C'est... J'ai entendu récemment, là, dans 76% exactement des cas, suite à une séparation, c'est la mère qui a la garde principale. C'est énorme, quoi. Pratiquement 8 cas sur 10. Et donc, au mieux, le père, dans ce cas-là, quand c'est la mère qui a la garde principale, il a un week-end sur deux les enfants et la moitié des vacances. C'est-à-dire que le quotidien, il n'y en a plus, quoi. C'est... Et quand t'as passé pratiquement 20 ans avec tes gosses au quotidien et que du jour au lendemain tu les as plus, oh putain. Et c'est le chemin de croix. Hein.
C'est pour ça que tu vis ici, pour être proche d'eux ?
Je suis toujours resté proche d'eux en fin de compte. J'ai vécu un an et demi dans cette cabane que tu vois là sur la gauche. Je les ai peu vus à part le plus jeune. Après, on m'a dit, Serge, tu peux pas rester comme ça et vivre presque comme un clochard, sans eau, sans rien. Il n'y avait pas l'eau là non plus. Donc j'ai loué une maison à 500 mètres d'ici, là, qui m'a ruiné moralement et qui a vidé mon portefeuille. Et je voyais peu les enfants à part le jeune. Avant, je me faisais comme un papa classique, un peu de soucis, un peu de ci, un peu de ça. J'ai tellement galéré pendant 4 ans que là je n'ai plus peur, donc je me dis qu'après tout, s'il y a des galères, il y en aura. J'ai vraiment changé. Je me fais moins de soucis en fin de compte. peut-être aussi parce que je les vois moins au quotidien, mes enfants, donc je vois moins ce qui se passe, les petites galères, les problèmes qu'il y a. Par la force des choses, il y a eu un recul et... 4 ans après, je l'accepte. Et puis, ça fait aussi partie du coup de ma liberté, retrouvée. C'était pas voulu au départ, mais... Alors au départ, c'est un manque sans nom, hein, c'est... C'est trop brutal, quoi. T'as pris 30 ans d'un coup, quoi. T'es comme un petit vieux, en fin de compte, desséché, personne qui vient te voir.
Tu as un tatouage sur le bras gauche. Qu'est-ce qu'il y a écrit et pourquoi est-il là ?
C'est un tatouage qui a un an déjà. Et écrit Game Over. En psychédélique, donc c'est une jeune fille qui a fait ça sur Nantes. Donc c'est mon histoire. C'est suite à la séparation, c'est une sorte de Game Over. Ouais. Puis il y a une petite flèche par contre qui dit que ça continue. Elle est petite, hein, mais. Après tout, ça peut continuer quand même. Ça aurait pu s'arrêter, je pense.
Qu'est-ce qui aurait pu s'arrêter ?
Ah, j'aurais pu choisir d'arrêter, ouais.
De quoi ?
La vie ?
La vie ?
Ben oui. Ah ouais, quand je te dis que c'était un choc, mais c'est énorme de ne plus voir ses enfants et que tu peux pas te défendre en fin de compte. L'autorité, entre guillemets, donne raison à la maman, donc... La messe est dite, quoi. Donc tu peux pas. Et donc c'est un chaos énorme. Donc voilà, j'avais besoin de l'écrire, de le mettre dans ma chair, ce Game Over. J'y pense tous les jours, mais au moins comme ça, je le vois en plus.
Et qu'est-ce qui t'a fait tenir finalement ?
Oh, mes enfants quand même. La musique, bien sûr. Un bouquin aussi, ou une petite phrase que j'aime bien. Donc le titre du livre, c'est « Berceuse pour un pendu ». Donc c'est un court extrait. On parle de Simon. Donc. Avant, je pensais que les suicidés étaient des lâches, que ces pas désespérés étaient une fuite devant la vie, devant ses problèmes, devant la responsabilité. Mais il est possible que ce soit des gens qui ont joué au dé avec le bon Dieu et qui ont gagné. Avant qu'ils se retournent, ils ont mis les voiles, sans attendre qu'ils leur accordent la grâce de mourir de manière naturelle ou dans un accident. Maintenant, je sais que ceux qui se suicident sont des gens libres, rebelles, des fous audacieux, qui choisissent eux-mêmes le lieu et l'heure de leur mort, qui prennent le bon Dieu de vitesse, mènent avec lui un match 1-0. Quant à la maladie, a-t-elle un lien avec tout cela ? Peut-être oui, peut-être non. Mais qui est sain parmi nous ? Qui est malade ? En serrant le nœud, Simon a peut-être montré qu'il était plus sain que nous tous.
Qu'est-ce que ça te fait de lire ça ?
Entre-temps, il y a pas mal de pages qui se sont tournées sur mon livre à moi. Et pour le moment, la roue tourne à peu près dans le bon sens. Ça change. Mais ce petit passage, c'est rigolo, je l'ai relu il y a 2-3 jours dans un café avec une connaissance. Donc il faut avoir un sacré culot, il faut vraiment être courageux pour se flinguer. Quoi. Peut-être que je n'étais pas assez courageux en fin de compte.
Au contraire, peut-être que tu l'as été, à rester vivant aussi, à te battre.
Ah ça, ouais, j'ai bien bougé mes fesses du coup, mais... En tous les cas, aujourd'hui, je suis là. Donc, à nouveau, j'ai repris goût à la liberté et l'envie de voir des gens. Donc là, c'est reparti, voilà. J'ai changé les pieds, moi. En tous les cas, ces idées sont vraiment extrêmement éloignées. Donc, c'est ça, le Game Over.
j'avais envie que tu nous partages un peu ton regard sur, sur la société actuellement, comment elle évolue.
Ouais, je pense qu'on va, on va dans un mur, mais les gens sont suffisamment malins et malléables et caméléons pour s'en sortir. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qui vont souffrir, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas mon monde, je le dis souvent, il serait pas comme ça le mien.
Il serait comment ?
Ah, il serait plus tolérant, il serait plus ouvert. Récemment, là, je m'étais intéressé à ça. J'avais lu quelques bouquins là-dessus. Et puis ça a été réactivé, justement, encore une fois, par des jeunes écolos, mais un mouvement un peu à part des Verts. Donc c'est sur le revenu de base inconditionnel, ou on appelle ça aussi parfois le revenu universel. Prenons la France parce qu'on y est. Chaque Français aurait le droit à une somme. Alors, imaginons de 18 jusqu'à ta mort, quoi. Elle serait entre 800 et 1000 euros aujourd'hui. Et ça permettrait à chacun justement de s'épanouir. Et ça serait superbe, cette idée. Tu ne serais pas là à pointer, à te faire juger. Et si on veut plus, on va bosser justement. Et ça permettrait de la liberté, de l'échange, du partage. J'aime bien cette idée, ça fait longtemps, ça fait plus de 200 ans que les gens parlent de ça. Les Suisses, en 2015 ou 2016, vont voter. Il y a un référendum en préparation là-dessus.
J'avais lu aussi quelque part que les personnes qui auraient ce revenu universel, il y a un sondage qui avait été fait que si ces personnes avaient ce revenu universel, on leur demandait « Est-ce que vous continueriez à travailler ?» 90% disent oui. Donc quelque part, c'est pas non plus pour ne rien faire, mais c'est aussi pour se réaliser finalement.
Ah oui, complètement, c'est ça. C'est au lieu d'aller se faire chier chez Lidl toute la journée, tirer peut-être un peu chez Lidl, 2-3 heures par jour, ou je sais pas, 2 jours par semaine. Mais le restant du temps, tu ferais des choses pour toi et surtout pour les autres. J'aimerais bien connaître ça. Je pense que ça serait un feu d'artifice, franchement. C'est un épanouissement incroyable. Non, sans déconner. Des sourires dans la rue. Plus de chômage. Tu te rends compte ? Plus besoin d'aller pleurer à Pôle emploi, de passer pour un profiteur. Ça m'a manqué. Je pense que si j'avais eu ce revenu de base, inconditionnel, à 18 ans, bah là, par exemple, je me serais lancé. Ouais. Et je pense, du coup, ouais, ça serait la porte ouverte à 1000 réalisations que les gens n'osent pas faire. Par peur de perdre le boulot, par peur de plein de choses, quoi. Donc les gens auraient moins peur, en plus. Oh.
Tu ne penses pas qu'il y a aussi un conditionnement pour leur faire peur et ne pas se lancer ?
Bien sûr qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est dur de se lancer. Hein. C'est facile quand tu as papa-maman derrière, quand tu as un peu d'économie, tu peux le faire. Il y a plein de gens, ils bossent depuis des années, ils n'ont rien. Il y a vraiment des gens, quand ils te disent « il me reste 1000 euros », ils ont 1000 euros. Quoi. Et ils n'ont pas 1200, vraiment c'est 1000. Et tu peux pas te lancer, c'est compliqué quand même.
Et tu voulais me parler aussi d'une pétition que tu es en train de mettre en place depuis plus d'un mois. Qu'est-ce que c'est cette pétition ?
Alors, c'est une pétition pour l'Olympique. L'Olympique, c'était la salle mythique à Nantes. Plutôt rock, mais d'autres styles de musique, mais plutôt rock, qui se trouvait dans l'ouest de Nantes, qui a été déplacée pour créer Stéréolux. Alors, en cherchant un peu pourquoi, etc., je me suis rendu compte qu'elle était déplacée surtout parce qu'il y avait soi-disant du bruit dans le quartier. Donc, à Nantes, c'est couvre-feu à 20h, pas de bruit dans les quartiers. Donc, on l'a déplacée près de l'éléphant et comme ça, on gêne que l'éléphant.
préciser peut-être aussi où se trouve le Stéréolux. C'est assez isolé, assez éloigné du centre.
Oui, ben on c'est pas très loin du hangar à bananes à Nantes. C'est-à-dire que la politique de Nantes, c'est on vide les quartiers, on met tout sur une île, l'île de Nantes, pour que les gens fassent du bruit, entre guillemets, vivent en fin de compte. On met la vie, entre parenthèses, à Nantes. Et donc cette pétition, c'est pour réouvrir cette salle mythique qui est toujours en activité, qui sert de lieu de résidence aujourd'hui. Il y a pratiquement 500 noms déjà en 2 mois. Une pétition qui m'a épuisé. Pour l'instant, je ne la sors plus parce que trop de succès. Non, ça m'a épuisé parce que d'aller de table en table, de bar en bar, de concert en concert. Alors, mon défi à moi au départ, c'est de recueillir 1000 signatures papier et ensuite basculer cette pétition au niveau qui est un relais au niveau local, c'est-à-dire pourquoi pas quelques radios, les petites revues papier de Nantes comme
Pulsomatique,
Wix, et puis mettre ça pourquoi pas sur Internet après, quoi. La laisser vivre. Mais j'y crois.
Et alors les gens, quand ils signent, qu'est-ce qui les motive à signer ? C'est une salle à laquelle ils tiennent ?
Ouais, je ressens une sorte d'engouement quand même. En règle générale, quand je la présente, c'est parti, quoi. Donc ils me posent plein de questions. Qu'est-ce qu'est l'Olympique aujourd'hui ? Pourquoi ? Comment ? Mais en même temps, plein de rencontres, des belles rencontres parfois. Quelques gens connus qui ont signé, comme Dominique A, par exemple. Pour ceux qui aiment le reggae, il y a Lee Scratch Perry. Bashung. Alors, on n'a pas le droit de fermer une salle où Bashung a joué, c'est pas possible. C'est une faute de goût. Et c'est surtout, je l'associe, moi, cette pétition, à une vie de quartier. Un quartier, ça doit vivre. Moi, je vois pas la ville comme ça, en tous les cas.
Tu la vois comment, la ville ?
Ah, moi, je la vois vivante, avec ce qu'on appelle du bruit, mais c'est de la vie, c'est-à-dire des chants, des échanges, du partage, des gens dans les rues. Ouais. C'est comme ça que je vois la ville. Une vie de quartier, quand on croise des gens, ses voisins, on les recroise, on discute avec eux. Un peu comme à Paris.
Merci beaucoup, Serge.
C'est moi, merci à toi.
Racontez-vous.
Racontez-vous. Une émission de Franck Dumouya et Anne-Claire Rebibeau.
Racontez-vous.